à la musique tunisienne.
À côté de la musique populaire, aimée et goûtée de tous, avec ce sentiment de nostalgie douce et amère à la fois qu'on éprouve généralement pour tout ce qui évoque un passé lointain, il existe une autre musique prisée, cultivée dans les villes, musique savante et maniéraise celle-là, qui a atteint le stade d'un art véritable qui a ses règles précises, sa critique et son histoire. En somme, c'est ce qu'on peut appeler la musique classique, et c'est celle-là que nous voulons vous faire connaître en cherchant à l'expliquer. Dans ce domaine de la musique classique, comme dans celui des arts plastiques ou de la culture en général, la Tunisie est tributaire de cette entité historique et géographique que l'on désigne sous l'appellation d'arts islamiques.
Rien d'essentiel ne distingue la musique classique tunisienne de celle de tel ou tel autre pays arabe, ni de celle des Turcs, des Persans ou des populations musulmanes de l'Inde, de l'Afghanistan et des républiques soviétiques asiatiques. Seules des différences de style, de composition, d'exécution instrumentale ou de chant marque pour les auditeurs avertis les nuances artistiques entre ces divers pays issus des anciens empires musulmans. La période de gestation de cette musique artistique arabo-musulmane s'étend de la fin du 7e siècle jusqu'à celle du 13e siècle, époque à laquelle elle a pris les formes et caractéristiques que nous lui connaissons aujourd'hui.
Pour avoir été cultivée et mûrie dans l'ambiance des cours impériales arabo-musulmanes de Damas et de Bagdad, puis dans l'entourage des diverses dynasties qui se sont partagées par la suite le vaste empire musulman, multipliant ainsi les centres de culture musulmane, cette musique est donc spécifiquement musulmane. Elle n'appartient en propre ni aux Arabes, qui en étaient les promoteurs à titre de catalyseur, ni aux Persans, ni aux Turcs ou aux Byzantins, qui en étaient, semble-t-il, les principaux pourvoyeurs, tout en répondant aux aspirations artistiques et au goût de l'élite de ces principaux éléments de la société musulmane d'alors et même d'aujourd'hui.
La musique artistique tunisienne n'est donc qu'une variété de ce que les Occidentaux ont pris l'habitude d'appeler musique orientale, peut-être pour bien marquer qu'ils ne lui trouvent rien de commun avec leur propre musique. On dit bien que certains mettent dans cette appellation quelque chose de péjoratif, frisant le dédain, tandis que d'autres, par trop délicat et chatouilleux, s'en trouvent offusqués.
Mais je ne pense pas qu'il faille perdre de temps à ces petitesses. Disons plutôt que seul le musicologue occidental s'intéresse vraiment à la musique orientale. Mais c'est sans doute par curiosité scientifique plutôt que par curiosité de goût.
Comprendre qu'à la première audition d'une telle musique, l'impression d'une oreille occidentale soit défavorable. Remarquez qu'en sens inverse, on ne pourrait demander à une oreille orientale d'être sensible à la première audition de musique occidentale. De part et d'autre, il faut beaucoup de bonne volonté pour arriver à prendre plaisir à ce qu'on entend.
Il faut plus que de la bonne volonté. il faut un préjugé favorable pour que l'auditeur reconnaisse des qualités artistiques à ce qui lui paraît naître selon ses goûts, selon son propre canon des valeurs mélodiques et sa conception du rythme, qu'une suite de fausses notes mal agencées.
La musique orientale a cependant, depuis assez longtemps déjà, éveillé la curiosité et la sympathie de certains compositeurs occidentaux, et non des moindres.
Essentiellement mélodique, la musique orientale a des combinaisons modales si nombreuses et si variées, une échelle de sons si riche en nuances artificielles et des formules rythmiques si ingénieusement agencées, qu'il est normal qu'elle attire l'attention et provoque l'intérêt de ceux qui, en Occident, recherchent des éléments nouveaux et des normes nouvelles en vue de créer une esthétique musicale différente.
Vous savez que certains compositeurs ont même essayé de s'affranchir du cadre trop rigide de la gamme tempérée à 12 demi-tons à l'octave pour élaborer des formules mélodiques cohérentes issues d'une échelle de 24 quarts de ton à l'octave, qui est en somme celle-là même dont font usage les musiciens arabes ou orientaux, comme on voudra.
Autrement dit, ces compositeurs occidentaux d'avant-garde jouent à leur manière avec une technique, ou plutôt une échelle de son, mise au point par plusieurs générations de musiciens orientaux.
Disons que nous voulons initier l'auditeur aux règles et formes de la musique classique tunisienne, il n'est pas question de prétendre parvenir d'un seul coup, comme avec une baguette magique, à lui faire goûter le charme que lui trouvent les Tunisiens et les mélomanes des autres pays arabes. Pour y parvenir, il faut certainement une longue éducation, une aussi longue habitude. Et encore peut-être cela ne suffirait-il pas. Là où physiologie et hérédité jouent sûrement un rôle efficace.
Ce qu'il faut d'abord, c'est ne pas s'attendre à trouver dans cette musique la polyphonie à laquelle on peut être habitué. Un enchaînement d'accords ou sons superposés pour rehausser la ligne mélodique. Les degrés irrationnels et les nuances artificielles, si abondants dans la musique orientale, ne s'accommoderaient guère de la discipline rigoureuse de la musique occidentale. Et d'ailleurs, les fervents de la musique orientale, purement et seulement mélodiques, ne semblent pas encore prêts à sacrifier ces nuances parfois si subtiles au profit d'une harmonisation systématisée.
Autre chose encore, L'instrumentation de la musique orientale est très simple, sans être rudimentaire. Elle ignore les grandioses et puissantes constructions de l'orchestration occidentale moderne, bien qu'elle tente de plus en plus à les imiter. Mais les efforts sont cependant réservés aux seuls instruments à cordes non munis de ligature. Il ne faut pas que l'auditeur occidental se dise qu'il ne peut pas y avoir de vraie musique sans harmonie et sans orchestration, parce qu'on lui répondra que la musique tunisienne, quoique dépouillée de ses moyens si puissants d'expression dont elle veut encore ignorer l'importance, réserve aux auditeurs des pays arabes et musulmans des émotions esthétiques incontestables.
Nous parlions tout à l'heure de physiologie et d'hérédité qui jouent un grand rôle. C'est certain. L'oriental, arabe, turc, iranien, ou simplement arabisé comme le berbère d'Afrique du Nord, revient toujours à sa musique traditionnelle, même après avoir reçu en Europe une longue éducation occidentale et une sérieuse initiation à la musique occidentale. L'observation est à retenir dans les deux sens, c'est-à-dire pour l'occidental ou pour l'oriental voulant s'initier à l'une ou l'autre musique.
Comme correctif à cela, disons qu'en Extrême-Orient, il y a maintenant à côté des musiques traditionnelles toujours aussi parfaitement appréciées, des orchestres de musique occidentale composés d'instrumentistes extrême-orientaux. La rapidité des communications a nettement servi à rapprocher les cultures et les arts, mais cette diffusion à l'échelle internationale d'une certaine forme de goût et de connaissance n'ira pas jusqu'à fondre toutes les musiques en une seule, et heureusement.
Heureusement, en effet, chaque musique gardant sa personnalité profonde, mais plus de gens cherchant à connaître et apprécier la musique des autres.
Ceci dit, revenons à notre sujet propre, qui est si difficile à traiter et qu'il vaut mieux ne pas nous permettre d'incident. Parlons des difficultés qu'il y a pour l'auditeur occidental en présence de la musique orientale, on peut se demander aussi s'il n'y a que des oppositions. N'y aurait-il pas un lien entre l'une et l'autre musique ?
Bien sûr que si. La musique arabe, orientale ou islamique a été promue à Bagdad au IXe siècle. Mais les premiers balbutiements se sont manifestés au Hijaz, à la Mecque ou à Médine, dès le début du VIIe siècle, un peu avant l'apparition de l'islam. Cette musique s'est par la suite développée dans des centres culturels soumis à des courants d'influence hellénique qui rayonnaient en éventail dans un cercle dont le centre était Byzance.
Comme on sait bien que la musique occidentale est née là-bas, on découvre alors que l'une et l'autre musique sont héritières des mêmes traditions artistiques. Évidemment, on ne s'en rend plus compte aujourd'hui, mais c'était encore évident au Moyen-Âge. Ce n'est qu'à l'époque de la Renaissance que les deux arts se sont séparés, l'oriental restant fidèle à ses normes originelles et l'occidental s'en éloignant peu à peu pour aboutir à des conceptions entièrement nouvelles.
Pour justifier cette allusion à une lointaine parenté entre les deux musiques, nous allons vous faire entendre d'abord une pièce liturgique de l'ordre mystique des Chadéliyas, telle qu'on la chante encore à Tunis, et ensuite une page de chant grégorien. Fondée au cours de la première moitié du XIIIe siècle par Aboul Hassan al-Chadouli, l'un des grands mystiques de l'islam originaire de Tunis, cet ordre a des filiales un peu partout en pays d'islam, et notamment à Alexandrie, où le saint homme avait fait un séjour assez prolongé au début de sa carrière mystique. Voici d'abord la pièce chantée musulmane. Et voici maintenant la pièce de chant grégorien.
Yeah.
pas inutile de rappeler que les Zéouïa oratoires des confréries religieuses ont joué jusqu'au commencement de ce siècle le rôle de conservatoire de musique dans les pays musulmans. C'étaient les seuls endroits publics où l'on pouvait entendre de la musique authentique et conforme à la tradition.
Le malouf est une version hispano-arabe de la musique artistique orientale musulmane, cette musique qui, née au début du 7e siècle avec l'empire arabe musulman, s'est développée peu à peu au cours d'une longue période de tâtonnement et de gestation pour devenir au 13e siècle un art majeur, indépendant, aux formes bien caractérisées, avec ses règles propres et son esthétique spéciale.
Le répertoire de ce malouf, de cette version hispanique de la musique artistique arabo-orientale, a été importé en Tunisie au cours du XVe siècle, pendant les divers exodes des musulmans d'Espagne provoqués par les progrès successifs de la Reconquista castillane.
Introduite dans le pays avec les arts plastiques mauresques d'Espagne, le malouf a vite fait d'y remplacer la version locale de la musique arabo-musulmane, probablement à cause de la pauvreté de son répertoire. Mais certainement à cause de ce prestige dont jouissaient les arts de l'Espagne musulmane dans le monde civilisé d'alors, pour le brillant de leur style et leur élégance incontestée.
On peut se demander qui a introduit en Tunisie cette musique des morts d'Espagne. L'apport a été anonyme. Les éléments du répertoire de ce malouf avaient été déjà brassés dans leur pays d'origine et fondus en un ensemble homogène et typique.
C'est un ensemble qu'on peut très bien comparer à la littérature des Mille et Une Nuits, dont les contes et histoires étaient, quand on les a réunis en recueil, déjà depuis si longtemps tombés dans le domaine public qu'on avait perdu tout souvenir de leurs auteurs. Thank you.
Il est possible et même probable que des compositeurs tunisiens, autochtones ou descendants des émigrés morts aient ajouté au fond, reçu d'Espagne, des œuvres de leur propre cru. Mais ces œuvres furent copiées sur des prototypes d'origine avec une telle fidélité qu'elles s'y amalgamèrent et qu'aujourd'hui, rien ne nous permet plus d'en déceler l'existence ou la différence entre ce qui venait d'Espagne et ce qui fut ajouté en Tunisie.
Ce qui revient à dire que les auteurs en question, étant restés anonymes, ne peuvent être considérés comme ayant fait une œuvre spécifiquement tunisienne.
Si on a qualifié le répertoire du fond espagnol de malouf, c'est-à-dire d'habituel, d'accoutumé, c'est probablement pour le distinguer du répertoire d'origine orientale directe, qui s'était reconstitué par les apports ultérieurs de la musique arabe et turque d'Orient.
Bien qu'issue des mêmes normes artistiques que la musique arabo-hispanique, la musique d'Orient en diffère quand même par le style, la conception des ensembles rythmiques et une plus grande variété dans l'ordonnance des naoubas ou programmes de concert.
Transplanté en Espagne, où la civilisation musulmane se reprenait à luire d'un éclat tout particulier, sous l'égide des Omeyades, les anciens califes de Damas, la musique arabe orientale ne pouvait manquer d'y subir l'influence des populations autochtones et celle des éléments berbères, plus ou moins arabisés, venus d'Afrique du Nord.
L'empreinte de ces berbères est particulièrement apparente. Elle se reconnaît dans certaines formules mélodiques où un degré dans l'un ou l'autre des deux tétracordes constitutifs de l'octave, ou dans chacun d'eux à la fois, est délibérément sauté, retranché de la gamme, comme dans la musique berbère qui en est encore au stade du pentatonisme primitif.
Sans être assez profonde pour en modifier les éléments de base, les influences reçues en Espagne par la musique arabe parvinrent cependant à la marquer d'un cachet spécial. C'est cette facture spéciale qui rend aujourd'hui la discrimination aisée entre la musique andalouse et le répertoire oriental arabe, également en faveur en Tunisie.
Un concert de musique arabe classique est généralement organisé suivant un programme, où les pièces instrumentales et les morceaux de chant se suivent dans un ordre donné. À chacun de ces programmes, on donne le nom de naouba, ou tour, ces séries s'exécutant à tour de rôle. Chaque programme, chaque naouba, est consacré à un seul et même mode mélodique. Les morceaux du répertoire sont classés en effet par mode mélodique et ceux composés dans un même mode sont classés par rythme.
Cette organisation systématique des concerts, cet enchaînement des pièces vocales et instrumentales venant s'ajouter aux règles précises qui régissent la formation des formules mélodiques et rythmiques, et jusqu'au mouvement d'exécution des divers morceaux, tout ce souci d'ordre de classification, cette façon de ramener toute construction à une cellule unique, génératrice de l'ensemble, toute cette discipline est profondément caractéristique de la pensée musulmane.
Cette mode de programmer les concerts en oubat, organisée selon un programme, était déjà en honneur dans les pays musulmans d'Orient au XIVe siècle et n'a pas manqué de passer en Espagne, où elle a influencé non seulement la musique des populations musulmanes, mais probablement celle des autochtones chrétiens. Certains musicologues croient trouver dans cette forme musicale arabe l'origine des partitas espagnoles et même celle des suites européennes, françaises ou autres. Chaque nouba de malouf est consacrée, comme la nouba orientale, à un seul et même mode. Mais ces différents morceaux, au lieu d'être composés sur des séries variables de rythmes, se plient à une série immuable de 9 rythmes dont les formules d'accentuation, la durée des périodes, l'ordre de succession et jusqu'au mouvement d'exécution sont invariables, uniformes pour tous les programmes.
Chaque nouba ou programme est désigné par le nom du mode mélodique auquel le programme est consacré. Chaque morceau de chant et chaque pièce instrumentale du nouba sont désignés par le nom du rythme qui a servi à leur composition. Les modes de la musique malouf sont, en principe, au nombre de 24, mais seuls 13 d'entre eux sont encore représentés par des pièces nettement caractérisées, permettant d'organiser un ou plusieurs programmes homogènes. Quant au rythme, nous avons déjà dit qu'ils sont au nombre de 9. Figés dans des formules quantitatives immuables, comportant peu ou pas de variantes pour les nuances d'accentuation.
Selon la richesse de son répertoire, chaque troupe de musiciens pouvait, jusqu'au début de ce siècle, composer plus d'un programme dans la plupart des 13 modes encore représentés par des pièces caractérisées. On organisait des séances musicales dans la bourgeoisie à l'occasion de certaines solennités familiales et dans des cafés, notamment pendant les nuits du mois de carême.
Ces séances débutaient et se terminaient toujours par une naouba de ce malouf, considérée comme le prototype du classicisme musical par l'élite du pays qui garde encore très vif le souvenir de l'Espagne musulmane, où naquirent les ancêtres de plus d'une famille tunisienne.
Chacun des 24 modes mélodiques et partant chaque naouba que l'on peut composer à l'aide des morceaux construits dans ce mode, était à l'origine consacré à une heure différente de la journée. Un ordre conventionnel de concordance de ces modes avec les heures du jour et de la nuit était établi et suivi avec une rigueur rituelle. Cette servitude d'ordre philosophique était liée au même principe qui établissait un rapport de comptabilité entre ces modes et les constellations du zodiaque, les quatre humeurs ou tempéraments, et même les couleurs et les parfums.
De cette tradition, il subsiste encore quelques traces, comme cette obligation quasi rituelle de jouer, ne fût-ce qu'un fragment de la naouba en mode meille, à la fin de chaque séance musicale, ce mode étant consacré par la tradition au matin. C'est pour cette raison que les Tunisiens ont pris l'habitude de dire « ils jouent du meille » pour exprimer l'idée de « toucher à sa fin », d'être sur le point de succomber.
Certains modes, et par conséquent certaines naoubas, sont d'autre part déclarés tabous, par suite d'une superstition dont il est difficile de retracer l'origine, tels les modes masboum ou noua, qui ont la réputation de réveiller les djinns endormis et celle de provoquer la séparation des amis. Cela sans doute parce qu'on a l'habitude de les traiter en des thèmes d'une tristesse manifeste, ce qui plaît beaucoup à l'auditeur tunisien.
Jusqu'à tout récemment, disons quelques années, les maîtrises des confréries religieuses, toutes dissoutes aujourd'hui, faute de recrutement, étaient de véritables conservatoires de musique. Avec leur disparition, le répertoire du malouf, déjà amoindri par le temps, s'amenuisa rapidement. D'autant plus que les orchestres qui en connaissaient quelques bribes s'en détournèrent pour ne pas perdre tout à fait un public de plus en plus sollicité par une musique nouvelle, légère et variée, importée d'Égypte avec le théâtre et les spectacles de variété.
Mais si le malouf n'est pas mort, on le doit aussi à des mélomanes invétérés, généralement d'un certain âge, anciens habitués des oratoires des confréries, qui connaissaient chacun bon nombre de morceaux dont l'ensemble pouvait reconstituer quelques programmes complets de malouf. Le baron Rodolphe d'Erlanger, qui avait fait construire vers le début du siècle un très beau palais dans le plus pur style hispano-arabe à Sidi Bouzaïd, était un artiste qui s'était créé des relations avec quelques-uns des derniers représentants de l'art du malouf, et dans l'ambiance de son palais évocatrice du faste de l'Andalousie musulmane, il était parvenu à faire revivre et recréer les principaux spécimens de cet art sur le point de disparaître. Le baron d'Erlanger, arabisant et musicologue, est l'auteur de 6 volumes consacrés à l'histoire des règles de la musique arabe.
L'ouvrage du baron d'Erlanger, qui fait autorité sur le plan international, constitue une importante contribution à la rénovation de la musique arabe. L'impulsion donnée par cet érudit occidental à l'étude de la musique nationale tunisienne stimula l'élite artistique du pays, et vers 1930 fut créée l'association culturelle la Rachidia, qui se donna pour but de profiter de l'érudition de quelques personnes détenant encore des bribes de malouf pour recueillir ses restes épars. reconstituer un ensemble et conserver un patrimoine précieux qui était menacé d'une disparition complète. La Rachidie a réussi à atteindre son but, renouvelant à plus d'un siècle de distance l'exploit de son parrain, le prince mélomane Rachid Bey, responsable, selon la tradition orale, d'un premier recensement du Malouf et de l'ordonnance actuelle de Sénaouba.